Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission exceptionnelle puisqu'il s'agit de rendre un hommage au grand peintre Christian Maillet qui nous a quittés le 22 juillet 2003 à 80 ans en laissant une œuvre de près de 70 années de peinture. Donc il y aura bientôt un an que Christian Maillet nous a quittés et pour cet anniversaire, j'animerai exceptionnellement cette émission en donnant la parole à son ami et beau-frère Jacques Jurquet qui est à mes côtés. Alors, Jacques et moi, qui le connaissons bien, souhaitons parler de l'homme dans toutes ses dimensions publiques, car Christian Maillet a aussi été un agrobiologiste connu dans la région. Ses conférences à la Société d'horticulture étaient très appréciées, et Christian disait d'ailleurs de lui-même que la peinture et l'agrobiologie étaient deux éléments indissociables de son œuvre et de sa recherche. On ne pouvait pas privilégier finalement la peinture sur l'agrobiologie. On le verra un peu plus tard dans les détails. Donc Christian Maillet a aussi été un homme de presse par sa réflexion et par ses écrits dans divers journaux régionaux, mais surtout par ses sérigraphies, ses dessins et les caricatures qui ont notamment été publiées dans la presse. Enfin, et c'est la base de toute son œuvre, comme nous le voyons dans sa peinture, Christian Maillet est un homme engagé, et ce depuis sa jeunesse au Maroc, son pays natal. C'est-à-dire que très jeune déjà, il milite contre le franquisme et puis contre Pétain. Et finalement, obligé de quitter le Maroc, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts à Nice, où donc il a élu domicile en quittant le Maroc. Mais très vite, il rejoint le maquis. Et bon, par la suite, on verra que, associant toujours son action et ses principes, il ne cessa de s'engager dans des luttes, on va dire, des luttes émancipatrices, et notamment contre toutes les guerres coloniales. Alors, avec Jacques Jurquet, nous allons balayer différentes périodes de sa création, donc ses débuts au Maroc, la période nîmoise, sa période animalière, et transversalement à toutes ces périodes, nous verrons aussi toutes les toiles qui nous parlent de ce siècle. On pourra parler par exemple de la toile Stalingrad, donc qui évoque la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la grande grève de 1947 à Arles, le portrait de Henri Martin, donc cet insoumis pendant la guerre d'Indochine. On pourra aussi évoquer des peintures du port de Marseille, notamment qu'il a peintes notamment pendant la guerre du Vietnam. On peut parler également sa peinture sur le Para pendant la guerre d'Algérie, celle sur le CRS en mai 68, jusqu'à son portrait du général Schwarzkopf, pendant la guerre du Golfe. Son œuvre est véritablement richissime, quoi. Donc nous aborderons également sa philosophie et sa recherche sur les lois de la dialectique applicables, disait-il, en peinture comme en agrobiologie. Mais juste avant de passer la parole à Jacques, Je voulais préciser aussi que nous avons eu, Jacques Jurquet, Étienne Bastide et moi-même, l'occasion, enfin, et le plaisir surtout de rencontrer, de parler, de filmer, d'interviewer longuement Christian Maillet. Et donc, les propos que vous entendrez de sa bouche même, enfin, en direct, par la voie de la technologie moderne, donc, mais ses propos à lui, vous seront donc extraits d'émissions que nous avons déjà passées sur cette antenne les années précédentes. Voilà, Jacques, je te donne la parole tout de suite.
Oui, si tu veux. Bien, bah, écoute, il est évident que lorsqu'on veut parler du peintre Christian Maillet, on doit envisager un domaine immense. Le domaine de sa pensée, le domaine de son idéologie, le domaine de sa production artistique. Mais je voudrais dire d'abord avec émotion qu'il n'était pas que mon beau-frère. Il était mon camarade de lutte contre le colonialisme. Pendant la guerre du Vietnam, pendant la guerre d'Algérie, il était mon camarade quand nous allions soutenir les familles algériennes pendant la guerre d'Algérie dans les bidonvilles. Il était, lui, spécialiste et très connu comme le loup blanc, du bidonville de La Cayolle, à Marseille, où il apportait presque quotidiennement la solidarité des quelques Français qu'on pouvait compter sur les doigts d'une main ou de deux mains, qui étaient aux côtés de ce peuple en lutte pour sa libération nationale. Mais je voudrais dire, puisque tu as abordé aussi tout de suite, Marie-Laure, l'ensemble de Christian, de son œuvre et de sa personnalité, je voudrais dire tout de suite que, oui, effectivement, il est né au Maroc. Il est né, je ne dirais pas par accident, au Maroc, mais tout simplement son père et sa mère, qui étaient des fonctionnaires en France, avaient sollicité pendant quelques années d'être nommés instituteurs au Maroc. Et il est né à Meknès. Il est né à Rabat et il a habité ensuite Meknès assez longtemps. Et je dois dire que alors je confirme ce que tu as indiqué tout à l'heure, c'est parce qu'il a fomenté ce qu'on appelle aujourd'hui, c'était un terroriste, comme ceux qu'on appelle aujourd'hui terroristes, il a fait un acte contre un établissement de Pétain à la gloire des nazis à Meknès ou à Rabat, je ne sais plus exactement dans laquelle de ces deux villes. Et c'est à la suite de cet acte que dans la nuit, quelqu'un l'a fait prévenir qu'il allait être arrêté au lendemain matin et qu'il s'est enfui, il est parti, il a rejoint rapidement Nice. À Nice, comme tu l'as indiqué, il a continué à travailler dans la peinture, mais je vais dire comment il avait commencé dans la peinture. À Nice, bientôt, il rejoint les FTP, c'est-à-dire les francs-tireurs et partisans français, animé par le Parti communiste français clandestin à l'époque, et il va participer au combat avec eux. Je dois dire que, alors qu'il était un enfant, qu'il avait 10 ans, 12 ans, qui commençait son adolescence, 13, 14 ans, il avait pour copains, ses meilleurs copains, lui, le petit français, le petit européen là-bas, tous ses copains, c'était les Marocains, c'est-à-dire, je précise, les Arabes marocains, bien sûr. Les habitants authentiques du Maroc. Il allait dans la campagne avec eux, ils allaient se baigner, ils allaient se rouler dans des cascades. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à prendre des feuilles de papier canson et à faire des croquis. Et il a conservé plus tard plusieurs centaines de ses croquis, de ses peintures à la gouache ou autre, et nous en parlerons plus tard, nous y reviendrons. C'est tout ce qu'on pourrait appeler sa peinture marocaine sur laquelle il va revenir dans les 10 dernières années de son existence.
Alors je propose qu'on fasse connaissance avec Christian par sa voix lui-même, et le premier extrait qu'on va vous passer nous donne un peu sa conception de la peinture.
Et je crois que la peinture, c'est la somme d'expérience, c'est le reflet très exact de l'idéologie de la personne qui peint, de ses connaissances scientifiques, de sa conception du monde, donc son idéologie, bien sûr, la connaissance, et les connaissances scientifiques. Je crois que c'est un tout. Et comme on acquiert ses connaissances que petit à petit, en développant aussi sa sensibilité, bien sûr, le sens des couleurs, des valeurs, etc. Mais surtout de ses connaissances scientifiques. Donc, nous sommes en évolution perpétuelle. Je n'ai pas pu commencer par peindre comme je peins actuellement. C'est absolument impossible.
Justement, alors on pourrait peut-être voir des toiles réalisées comme vous le décriviez tout à l'heure au Maroc.
Ah ben, malheureusement. Oui, je vais vous en montrer quelques-unes. Mais généralement, je les ai repeintes. C'est-à-dire, vous ne les verrez pas dans l'état dans lequel elles étaient au moment où je les ai faites. Parce que quand je revois ces peintures, je ne peux pas m'empêcher de retravailler parce que j'ai changé, bien sûr. Et je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne collent pas.
Alors, je ne sais pas, une perte pour justement les amateurs d'art que de ne pouvoir suivre cette évolution naturellement.
Je ne sais pas si c'est une perte, mais moi, je ne peux pas regarder une peinture avec des choses qui ne collent pas avec ce que je pense à l'heure actuelle. Quoi. Alors, moi, je suis obligé de les repeindre. D'ailleurs, vous avez là deux peintures.
Heureusement que vous en avez vendu quelques-unes au fur et à mesure, alors.
Ah oui, mais...
Sinon, vous seriez constamment en train de les refaire.
Je les avais déjà repeintes.
Ah bon ?
Je ne vends que ceux dont je suis satisfait à l'heure actuelle. Ceux dont je ne suis pas satisfait, d'abord, je ne les montre pas, et puis je ne les mets pas en vente. Voilà. Vous avez ici deux toiles, deux peintures à l'huile, qui ont été faites, une en 39, en octobre 39, elle est datée du 10-39, et celle-là en mars 40, c'est-à-dire quelques mois après. C'est sur le toit de la même maison, c'était la maison d'un vieux peintre qui me donnait à ce moment-là quelques leçons particulières, qui s'appelait Matteo Brondi, qui est mort maintenant, qui était un homme charmant, et qui me faisait peindre ce que je voulais. Voilà. Alors,
est-ce qu'on peut considérer, puisque vous les avez repeintes, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, la date 39, même si la base, le fond, etc., date de 39, qu'elle est vraiment de 39?
Ben, c'est-à-dire que les peintures dont je ne suis absolument pas satisfait, où rien n'est bon, je les détruis. Je ne garde que ce que je peux sauver. Voilà. Alors celle-ci, la mise en page était déjà telle que vous le voyez. Voilà. Je n'ai fait que corriger certains rapports de ton et une ambiance générale. Mais en me mettant, en me souvenant des sensations que j'avais à l'époque. C'est cette possibilité que j'ai, heureusement. Je sais que tout le monde est différent, mais moi j'ai cette possibilité. Je peux reprendre une peinture que j'avais faite il y a 50 ans, et en la regardant, petit à petit, j'entre dans le tableau et je me sens tout à fait... je retrouve les impressions que j'avais eues à ce moment-là.
Donc j'aime beaucoup cet extrait qui nous parle de sa conception, la conception qu'il a de la peinture. Et dans cet extrait, on voit aussi à quel point Christian Maillet est un homme intransigeant, mais dans le bon sens du terme, je veux dire sans concession, qui est un homme droit. En discutant aussi avec lui sur les choses, je dirais, à côté de la création, mais qui touche quand même à la peinture, il dit par exemple qu'il n'accepte pas d'être coté par l'institution. Hein. Si tu as des choses à dire, Jacques, là-dessus, n'hésite pas. Je sais qu'il a plusieurs fois, on l'a plusieurs fois sollicité pour coter sa peinture, et qu'à chaque fois il a refusé, disant ma cote, je me la fais moi-même.
Non, mais je ne révélerai pas un secret de famille en disant que longtemps, Christian Maillet, artiste peintre tout à fait expérimenté, ne pensait pas tellement à faire des expositions et à se lancer. Il avait eu quand même quelques articles élogieux dans l'hebdomadaire Les Lettres Françaises, signé par la critique Hélène Saint-Gria, mais il ne cherchait pas tellement à se faire mousser. Il faut dire d'ailleurs qu'il était quand même très entouré, et tout à l'heure j'aurais dû le dire dès le début, Christian Maillet a été entouré de la solidarité de sa famille toute sa vie. Depuis qu'il était enfant, tout ça, sa mère, son père, tout le monde, on ne l'a pas empêché de devenir un peintre, on ne lui a pas barré la route. Et je dois dire que son frère, sa sœur, ses parents, tout le monde, son gendre, puisqu'ensuite il a eu une fille et que Cathy et sa fille, elle également a beaucoup soutenu son père dans son travail, dans ses ambitions de peintre. Je dois dire que c'était quelque chose de très important pour lui que cette solidarité, parce que c'était une solidarité familiale qui s'ajoutait à la solidarité de quelques des militants qui pouvaient être autour de lui, engagé dans la lutte contre ce que nous appelions à l'époque la sale guerre du Vietnam, ou engagé dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Et à cet égard, naturellement, nous pourrons parler, je crois que tu as cité tout à l'heure, Stalingrad.
Oui.
Oui, c'est une figure. Mais alors, il avait beaucoup d'idées, et quand il discutait ses idées, il les exposait très bien, mais il en démordait difficilement, il n'en démordait pas. Et après tout, c'était respectable, comme tu l'as dit, mais il fallait le connaître, bien le connaître. Et de ce point de vue, je veux dire, au passage, que Christian était un peintre plutôt défavorable, opposé à la peinture abstraite. Je ne dis pas d'une manière sectaire et fermée, mais il n'aimait pas beaucoup l'abstrait. Ça n'empêche qu'il a été un animateur de tout ce qu'il a pu y avoir d'abstraction dans la peinture de Picasso et d'autres grands peintres, dont il reconnaissait les talents, mais il essayait surtout d'être figuratif. Cependant, je veux citer sa toile, de Stalingrad. Stalingrad, pour lui, avait représenté, comme pour beaucoup de jeunes de notre génération, nés dans les années 20, un grand espoir de libération par rapport aux nazis, la victoire de Stalingrad par l'armée rouge soviétique, et ça l'avait beaucoup frappé. Ce qui fait qu'il avait fait un tableau qui, pour une fois, n'était pas du tout figuratif. Mais sans être figuratif, je crois que finalement, s'il était là, il me dirait « tu te trompes ». Il était quand même proche des réalités. Pourquoi ? Parce que son Stalingrad était un enchevêtrement de poutres, de grues, de maisons, de ruines, de tout ce que vous voudrez. C'était un méli-mélo extraordinaire. Quand on était devant cette toile au début, on se réfléchissait, on se disait « qu'est-ce que ça peut bien représenter ?» Et puis après, quand lui commençait à expliquer, on comprenait que c'était la ville, la grande ville de Stalingrad, après la bataille qui avait duré depuis 1942 jusqu'à la victoire soviétique de l'armée rouge de février 1943, et qu'il ne restait plus rien de cette immense ville. Ça, c'était l'aspect, je dirais moi, non figuratif, mais il était figuratif dans la mesure où elle représentait des ruines. Bien, je te laisse la parole.
Oui, ce que je voulais dire sur le style de Christian Maillet, puisqu'on l'a abordé là, en fait, ce qu'il disait, c'est que le plus important, c'était le contenu. Hein, on passera aussi un extrait dans lequel il le dit fort bien. Donc, c'est la primauté du contenu, et la forme n'est là que pour s'adapter au contenu et pour servir le contenu. Mais comme il disait bien lui-même, quand on dit « n'est là que pour servir le contenu », cela ne la rend pas plus accessoire pour autant. C'est-à-dire que, bien évidemment, une œuvre doit être belle aussi. Et pour faire passer un contenu, pour qu'elle parle au cœur et aussi à la raison, puisque même en art, c'était d'ailleurs sa particularité. Je trouve que c'est un artiste qui parle au cœur et à la raison. Il faut une forme qui sache, qui ait justement cette possibilité d'atteindre notre sensibilité. Donc lui, il disait bien, il dit je suis pas abstrait ou je suis pas figuratif ou je suis pas, en fait, comme il dit, je fais du Maillet. Et là, c'est dans une peinture qu'on pourrait dire effectivement abstraite, sur par exemple la grande grève de 47 à Arles ou celle donc de Stalingrad ou d'autres, il y a du cubisme, on va dire, dedans, ça s'apparente un peu à du cubisme aussi, et puis d'autres qui sont beaucoup plus figuratives, ou même plus impressionnistes, comme il disait, hein, au début de sa carrière. Il disait, bon, d'ailleurs, on va vous passer l'extrait suivant dans lequel il en parle bien, en fait. Au début de sa carrière, il disait, enfin, du moins, il dit maintenant, moi, je ne savais pas qu'on pouvait peindre autrement. Je faisais de l'impressionnisme, et voilà. Et
quand, par exemple, il peint un CRS, est-ce que vous avez vu, vous, nos auditeurs et auditrices, un CRS avec six bras, comme une Ipsara cambodgienne ou autre ? Non. Mmh. Eh bien, lui, il peint un CRS en train de matraquer et il montre avec six bras. Et les bras, ça donne le mouvement du matraquage par le CRS. Mmh. Alors, est-ce que c'est de l'abstrait ? Est-ce que c'est du figuratif ? Pour moi, oui. C'est du Maillet, comme tu as dit.
Voilà.
Effectivement. Et c'est très beau. C'est très, très beau parce que c'est tout à fait suggestif. Et tous ceux qui ont eu affaire dans des manifestations à des charges des forces de police, ils savent très bien ce que c'est que ce geste du CRS qui manie la matraque.
Oui, et puis il disait bien aussi qu'en fait, on peut tout faire, on peut tout utiliser en peinture à condition de ne pas en faire un système. Et il a d'ailleurs, dans ses dernières toiles, utilisé aussi du collage. Du collage de petites, enfin, comment dire, du dessin, de choses rajoutées, des choses imprimées, mais également, par exemple, je pense qu'il y a une carte American Express ou des choses comme ça. Christian Maillet est aussi quelqu'un qui est plein d'humour, bon, et donc il aime bien dire que en peignant il s'amuse aussi. Et il y a des tas de toiles qui montrent notamment le plaisir qu'il a pu prendre et le côté un peu l'humour qu'il a dans certaines de ses toiles. Avant de passer à, on va dire, la deuxième partie de l'émission, je voudrais donner cet extrait là où il disait justement ce qu'il était au début de sa vie, hein. Il dit à un petit bourgeois, voilà, On l'écoute, cela.
Au départ, j'étais un jeune petit bourgeois, donc fils d'instituteur, qui vivait relativement très bien par rapport aux masses arabes du Maroc, n'est-ce pas? Et c'est petit à petit, les guerres, l'expérience, etc., que j'ai complètement changé d'optique. À ce moment-là, quand j'étais enfant au Maroc, donc privilégié, je ne voyais que la beauté des paysages. J'étais impressionniste. Hein, des impressionnistes, c'est la peinture de la période post-révolutionnaire de 89, où les gens croyaient à la démocratie, c'était l'instruction publique pour tout le monde, etc. Le monde allait devenir meilleur. On croyait à tous ces idéaux de la Révolution française, Révolution bourgeoise française de 89. Et c'est petit à petit que les choses ont évolué. On s'est aperçu que ce n'était pas si idyllique. Et ça donne Van Gogh, n'est-ce pas? Van Gogh, lui, arrive, il commence par peindre les mangeurs de pommes de terre. C'est ce fils de pasteur qui voulait être lui-même pasteur, qui va au borinage pour prêcher chez les mineurs du borinage, et qui s'aperçoit qu'ils sont dans une misère atroce.
La voix de Christian Maillet, ça fait vraiment plaisir de l'entendre. Donc, ce que nous avons dit aussi en introduction, c'est que Christian Maillet n'était pas seulement un peintre. C'est un homme qui a finalement une philosophie, une conception, un point de vue sur la vie, et qui, toute sa vie, en fait, a été en recherche. C'est aussi un scientifique. Hein. C'est aussi très caractéristique. C'est pas évident de trouver des peintres comme ça qui parlent à ce point aussi le langage de la science. J'ai eu longtemps une conversation avec lui sur un scientifique qui s'appelait Steiner, je crois, qu'il a beaucoup étudié. C'est quelqu'un qui était très, très curieux de tout, finalement, hein, et notamment aussi beaucoup de sciences. Donc, on a aussi dit qu'il avait participé à des revues, hein, avec donc son talent de dessinateur et de caricaturiste. Mais là, je veux plutôt revenir à sa recherche sur le matérialisme dialectique, et qu'il a expérimenté aussi bien donc en peinture que en agrobiologie. En fait, il ne cessait de rechercher comment les lois de la dialectique s'appliquent. Voilà. Et donc, par exemple, pour l'avoir longtemps suivi dans son jardin et l'avoir filmé, regardé, travailler la terre dans son jardin, et écouter sur l'intérêt du compost et autres techniques, on va dire, d'agrobiologie. J'ai le souvenir qu'il disait que, en fait, tout le travail de la terre consistait à, finalement, force un peu d'opposition, les minéraux luttant pour se transformer finalement en végétaux, et finalement la nature, elle, luttait d'une certaine manière pour se transformer, elle, finalement en végétaux aussi. Donc, en fait, c'était cette lutte des contraires que lui remarquait en agrobiologie, qu'il a souvent appliqué dans la peinture, justement, quand il a passé après cette période impressionniste de ses débuts de carrière au Maroc, notamment à Nîmes. En fait, c'est à Nîmes qu'il a découvert la loi, il est capable d'en parler de façon aussi lisible quand on regarde la toile qu'il a faite sur la tour Magne à Nîmes, où l'on voit effectivement de quelle façon les formes et les couleurs se répondent, s'opposent et s'unifient si bien, quoi.
Oui, je veux signaler deux articles de Christian Maillet, deux études importantes qu'il a communiquées à des organismes qui s'occupent des problèmes de la culture à Marseille, de la culture biologique en particulier. Et deux articles, un d'avril 2002, qui s'appelle « L'agriculture biologique et le problème des oligo-éléments ». Bien entendu, je vous épargnerai de vous en donner de larges extraits, parce que c'est quelque chose de très calé, de très pointu. Mais c'était véritablement une application du matérialisme dialectique à l'agriculture. Et le deuxième article a pour titre « L'humus et le compostage de surface. Il date de la même époque à peu près. Pour moi, Maillet, c'est un peintre engagé, avant toute chose, naturellement. Et c'est en ce sens que je l'aime tant. Mais à côté de ça, il ne faut pas qu'on oublie qu'il était un peintre qui a aussi peint des toiles, qui n'était pas forcément profondément engagé dans la vie du moment, dans les événements du moment. Il a peint de magnifiques toiles sur les bords de la mer de la Corniche, par exemple, avec les gens qui se font bronzer, et puis au fond les îles, et puis le château d'If et la mer. Il a fait sur les arbres, sur les pins notamment, il a fait des tableaux très très beaux, puis enfin une quantité de tableaux de nature et également des natures mortes nombreuses qu'il a dessinées et peintes. Ce n'est pas pour moi l'aspect principal, mais c'est un aspect qui mérite cependant d'être signalé, parce que c'est un aspect qui a eu aussi beaucoup de succès dans le public.
Alors, tu veux lire ton article, l'extrait d'article maintenant, Jacques ?
Lequel ? Non. Alors oui, si tu veux. Simplement, je veux rappeler, alors, puisque je parlais de ses engagements, eh bien, en octobre 1965, Christian était parti en Indonésie à une conférence internationale du mouvement de la paix indonésien, que présidait d'ailleurs le chef d'État de l'Indonésie à ce moment-là, M. Sukarno. Et quand il est arrivé là-bas, il est arrivé en plein putsch fasciste du général Suharto, qui a renversé M. Sukarno, qui était un homme de progrès, un progressiste, un musulman modéré qui cherchait le bien avant toute chose de tout son peuple. Et il a été renversé par ce fasciste qui était le général Suharto, qui a tué en l'espace d'un mois environ, au moins c'est reconnu par tout le monde aujourd'hui, 500 000 citoyens de l'Indonésie appartenant ou soupçonnés d'appartenir au Parti communiste de l'Indonésie. Et alors là, j'ai un article que j'avais fait moi-même il y a quelques années pour la revue Faites entrer l'infini, qui est une revue de la Société des Amis d'Aragon, où je dis ceci, début octobre donc 65, Régis Bergeron, qui est un autre qui travaillait à plusieurs années avec Aragon, se trouvait sur place à Jakarta en compagnie de Christian Maillet. De la terrasse de l'hôtel où ils restèrent consignés pendant 3 nuits, consignés par les putschistes, ils entendirent dans toute la capitale éclater des rafales d'armes automatiques et des militaires qui hurlaient « communiste Gantung », ce qui signifiait dans leur langue « il faut pendre tous les communistes ». Ils virent des incendies rougeoyants dans différents quartiers. Tous les dirigeants du PKI, Parti communiste d'Indonésie, présents dans le pays furent exécutés sans procès, et des centaines de milliers de familles soupçonnées de sympathie communiste furent exterminées à l'aide d'armes classiques ou dans leurs maisons en feu. De fait, 15 ministres, le secrétaire général Haïdit, la quasi-totalité des membres du bureau politique et du comité central de ce parti, et environ, on a pu compter jusqu'à 1 million de personnes présumées communistes, furent assassinées. Voilà ce que je voulais quand même rappeler, parce que c'est un moment très important de l'engagement de Christian Maillet, qui n'est pas forcément un engagement de peinture. Mais je veux dire que quand il est revenu d'Indonésie, il est revenu et il s'est mis à peindre en indonésien. Il a peint dans sa propre maison. Il y a des murs, là où il habitait, il y a des murs qui sont peints avec des motifs indonésiens qu'il avait là-bas pu voir malgré son internement, en quelque sorte, pendant le putsch. Ce qui fait que partout où il passait, même si c'était dans des engagements militants, il conservait son œil de peintre et ensuite il reproduisait sur des toiles ce qu'il avait vu.
Donc on va faire une petite pause musicale.
Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la fermer, je ne suis pas sur terre pour pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la poule de sang. Il y a des prisonniers. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai par les chemins, je vagabonderai sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde. Et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, vous êtes tous des frères pauvres de tous les pays. S'il faut verser le sang, la liberté c'est le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs mon homme grand, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
Alors, donc, pour reprendre, je voulais vous passer donc un nouvel extrait des propos de Christian Maillet sur la primauté du contenu dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais comme je pense qu'il le dit beaucoup mieux qu'on le fait nous-mêmes, donc je pense qu'on va passer directement cet extrait.
Voilà, la forme est différente de ce que je faisais jusque-là à Nîmes, mais depuis, j'étais bien décidé à ne jamais me tenir à une forme, à un style. Pour moi, le plus important, c'est le contenu, et que le contenu et la forme collent, que ce soit une unité, forme-contenu. Voilà. Alors, c'est bien que, suivant le sujet traité, je dois pouvoir adapter une forme différente, une méthode différente, une technique différente. Voilà. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est découvrir les lois de la dialectique, les comprendre, en découvrir d'autres si possible, approfondir, parce que bon, c'est très complexe, ces problèmes sont très complexes, on n'a pas encore tout découvert, arriver à découvrir tout ça et le traduire. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que si on regarde l'histoire de l'art, toute l'histoire de l'art n'est que l'histoire d'une évolution de l'humanité. Et les peintures d'une chaque époque n'ont d'intérêt que parce qu'elles montrent quels sont les idéaux de l'époque, les croyances ou les connaissances scientifiques de l'époque. Et je pense que ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est bien sûr parler de son époque, qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, comment ça bouge, et montrer aussi à quel niveau on en est, à quoi on se heurte.
J'aime bien également cet extrait parce que on voit comme, je trouve qu'on voit bien dans cet extrait et dans les autres aussi comme Christian Maillet est un homme libre, enfin une pensée libre, c'est-à-dire qu'il a été effectivement engagé donc à gauche bien évidemment et dans des partis que l'on connaît comme étant, bon, c'est un maoïste par exemple, c'est une personne qui a fait plusieurs voyages en Chine, qui a des engagements très très marqués, mais il est en aucune façon, et apparemment il n'a jamais été dogmatique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on sent très bien, je trouve, dans ses propos. C'est un homme qui est sans tabou, c'est ce qu'on sent aussi dans ce qu'il vient de dire là. Il n'y a pas de tabou, c'est un homme qui paraît très transparent, qui est, moi je trouve, droit. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans d'ailleurs différentes de ses activités, pas uniquement la peinture. C'est quelqu'un qui paraît avoir une certaine assurance, mais en même temps qui n'est pas complètement qui chez qui le doute peut exister aussi, le doute du chercheur en tout cas. Et donc il est dans la recherche, et donc pour ça il peut être dans la transparence, dans les hypothèses exposées. Ses conclusions ne sont jamais hâtives, ou si elles sont exprimées, elles peuvent être exprimées, comme il le dit, c'est provisoirement cela, ce qu'on peut dire maintenant, mais on ne sait pas tout, on a encore beaucoup de choses à découvrir, et pourtant Dieu sait que c'était quelqu'un d'érudit et de très cultivé, mais tout à fait conscient de tout ce que l'homme avait encore à découvrir. Et voilà, donc je trouve que cet extrait-là le montre assez bien aussi. Est-ce qu'on peut aborder, par exemple, un autre aspect qui est la peinture animalière, Jacques ?
Oui, si tu veux. Oui, on peut parler de sa peinture animalière. C'est une période de peinture de 1955 à 54, 55, 56, parce qu'il habite à ce moment-là du côté du siphon, là, de l'établissement, de l'édifice de la Société des Eaux de Marseille, derrière le Palais Longchamp. Ce qui fait que quotidiennement, il peut aller se promener tranquillement et regarder le zoo. Et dans le zoo, il voit, à cette époque-là, il voit toutes sortes d'animaux. Et il se met à peindre les animaux avec une très grande originalité esthétique. Et je dois dire qu'il ne reste plus beaucoup de ces toiles d'animaux en possession de sa famille, dans la mesure où beaucoup ont tellement plu qu'ils ont été vendus sans aucune difficulté. Il peint les zèbres, il peint les serpents, il peint les oiseaux, il peint le buffle. Moi, j'ai une peinture de buffle qui est magnifique. Et puis alors, ça me donne l'occasion de dire que Christian peint aussi ses propres chiens. C'est-à-dire l'un qui s'appelle Yuri, d'ailleurs, qui est un chien tout blanc et qu'il a gardé très très longtemps jusqu'à sa mort, et un autre chien, un grand chien, et un autre chien, alors qui est un petit, probablement un bâtard de berger allemand et de je ne sais quoi, parce qu'il n'est pas très grand, et qui s'appelle Kim. Et ce Kim-là, il le peint tous les deux, parce que vraiment, il aime énormément les animaux. Mais les animaux qu'il préfère, et de loin, aux chiens, ce sont les chats. Parce qu'à ce moment-là, Christian, dans sa maison là-bas, avec son épouse, ben, ils entretiennent, moi j'en ai compté 7, ils entretiennent 7 chats à un moment. Alors il y en a 3 qui ont le droit de citer, c'est-à-dire le droit d'entrer à l'intérieur de l'appartement. Les 4 autres, on leur a aménagé des cahutes pour la nuit, mais on leur donne à manger, et il y en a 7. Les 4 autres, ce sont des chats qui sont venus de chez les voisins, parce que probablement, ils trouvaient la cuisine meilleure chez Maillet que chez leur propre propriétaire. Et alors, les chats ont joué un grand rôle dans sa vie. On les retrouve d'ailleurs souvent dans sa peinture. Et il y a 2 chats qui ont accompagné Christian jusqu'à, je dirais presque, jusqu'à son dernier souffle. Ces 2 chats, c'est Ulysse et Titi. Ulysse est encore vivant. Titi, qui avait 18 ans, et on peut dire qu'il n'est pas mort de chagrin, mais enfin, il a très bien senti que son maître n'était plus là, est disparu. Il ne voulait plus rentrer dans la chambre qu'il avait quittée. Et il est mort il n'y a pas longtemps. Il a fallu le faire piquer parce qu'il était complètement malade. Et quant à Ulysse, il est toujours vivant. C'est un chat siamois d'un type très particulier, qui est terriblement intelligent et qui comprenait très très bien quand Christian était atteint de cette cruelle maladie et alité. Il allait sur le lit à côté de lui et il ne bougeait plus jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Et je pense que les chats, pour Christian, ont été des compagnons très très importants, très appréciés.
Oui, alors Les chats étaient donc, avaient aussi un droit de cité donc dans son jardin. Hein. Il y avait certaines, il y avait des fois des grillages pour éviter que, qu'ils n'aillent là où ils n'avaient pas à aller. Mais par contre, dans le jardin lui-même, les chats étaient alors chez eux, quoi. Hein. Et dans mon atelier aussi, me semble-t-il. Alors moi, je l'ai vu assez rarement peindre, hein, donc je ne peux pas dire si les chats étaient présents quand il peignait. Mais je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les individus, eux, n'étaient pas présents quand il peignait. Puisque même sa femme disait l'autre jour que personne ne pouvait le voir peindre, il avait besoin d'être vraiment seul quand il peignait, en tout cas seul, c'est-à-dire sans âme humaine à côté. Peut-être les chats, eux, avaient-ils...
Oui, les chats étaient ses seuls compagnons voilà. Dans l'atelier.
Alors, d'ailleurs, des fois, sa femme disait que elle voyait Christian jardiner dans le jardin, donc enfin, sur ses légumes, et puis s'arrêter, penser, se repencher sur la terre, et puis à nouveau faire un geste qui montrait qu'il était dans une réflexion, et puis tout d'un coup, foncer vers son atelier, hein, qui était donc à proximité, et puis changer son tablier de jardinier pour son tablier de peintre, si je puis dire. Ça, c'est une formule, hein. Je ne sais pas s'il avait un tablier quand il peignait, mais en tout cas, donc il reprenait son pinceau et il se remettait à peindre. Et en fait, il y avait vraiment là aussi une dialectique entre son activité de jardinier et de peintre, et il avait vraiment besoin des deux pour être à l'aise, quoi, pour bien vivre, pour être en harmonie aussi avec lui-même.
Je vois que l'heure tourne, oui. Et je voudrais quand même qu'on parle une minute de deux tableaux, oui. De deux ou trois tableaux qui, personnellement, me saisissent énormément. Je parle du parachutiste torsionnaire, oui. Dont il a produit d'ailleurs plusieurs exemplaires. C'est à l'époque qui a été longtemps nié, mais qui est aujourd'hui reconnu et établi, à l'époque où l'on torturait les partisans de l'indépendance de l'Algérie, les combattants algériens, et puis aussi quelques Français comme Henri Allègue, par exemple. Et à ce moment-là, il a dessiné, il a peint un parachutiste avec son béret violet sur le côté, et ses doigts étaient transformés en baïonnettes sanglantes. Bon, vous me direz que c'était peut-être un peu d'abstraction, mais c'est extrêmement saisissant et on ne peut pas rester insensible quand on voit un tel tableau. Ça me donne l'occasion de dire qu'il n'y avait pas que le parachutiste torsionnaire. Il y a eu un tas d'autres tableaux sur la guerre d'Algérie, bien entendu, déjà. Et mais au préalable, il y avait eu le Vietnam. Et il est l'auteur d'un tableau vraiment remarquable montrant le quartier maître Henri Martin, qui avait été arrêté pour s'être opposé à la guerre des colonialistes français contre le peuple vietnamien. Et à côté de ce Henri Martin, qui a été condamné à 5 ans de bagne pour son action contre cette guerre, il y avait un Vietnamien. Côte à côte, Henri Martin et ce Vietnamien. C'est un tableau extrêmement
magnifique.
Fort.
Oh, magnifique. Donc, on va peut-être passer l'extrait suivant qui est un peu le pendant du précédent, hein, donc toujours sur les contradictions. Et donc, bon, je laisse parler Christian Maillet.
Avant d'attaquer une peinture, il faut que tout dans la tête soit déjà composé. Il faut voir avec les yeux à l'intérieur, savoir exactement ce qu'on va faire. On ne découvre pas sa peinture sur... Enfin, pour moi, je sais qu'il y en a qui découvrent en peignant, et ils découvrent ce qu'ils doivent faire. Moi, c'est le contraire, il faut que, avant d'attaquer, je sache exactement où je vais. Et je mêle la réalité avec les pensées, le rêve, la réflexion, etc. Je veux toujours aller dans le sens du plus réel que réel. Pas essayer de faire croire aux gens que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, par exemple. C'est pas du tout le rêve dans ce sens. On fait abstraction de la réalité et puis on entre dans un monde idyllique, etc. Pas du tout. Moi, je veux toujours montrer des contradictions. Pas les voiler, pas les cacher, les faire sortir. Parce que je crois qu'on crève de ça, c'est qu'on ne fait pas sortir les contradictions. Les gens les gardent en eux, tout ça, mais rien ne s'exprime. Il faut que ça sorte, parce que c'est normal. Toute chose, à son contraire, une chose n'existe que parce qu'il y a son contraire. Et l'unité des contraires nous montre bien que toutes les choses sont contradictoires. La contradiction est à l'intérieur de nous-mêmes, de tout ce que fait les hommes, toutes les actions des hommes. Dans la nature, c'est comme ça d'ailleurs. Dans mon jardin, là, c'est très intéressant de constater une chose, c'est que le sol et tout ce qui pousse dessus, c'est une contradiction, c'est une unité de contraire. Le sol, lui, il ne vit que pour transformer la matière organique végétale en minéral, c'est-à-dire en terre, en minéral. Et les végétaux qui sont là, ils pensent qu'à une chose, c'est transformer le minéral en végétal. Vous voyez, ce sont deux forces contraires. Alors, tantôt c'est l'un qui gagne, tantôt c'est l'autre.
C'est effectivement bientôt la fin de cette émission. Ce que je voulais dire, que j'ai dit déjà en introduction, mais puisqu'on va devoir terminer, et avant de vous passer un dernier extrait dans lequel il évoque des peintures beaucoup plus contemporaines, hein, notamment celle sur la guerre du Golfe, donc où on voit le général Schwarzkopf, mais bon, il en parlera lui-même, ou également une peinture dont il parlera peut-être pas dans l'extrait que nous avons choisi, mais qui montre bien à quel point il était vraiment en phase avec les préoccupations de la société. Et c'est donc une peinture qui s'appelle ANPE Circus, hein, où il montre bien, là aussi c'est très allégorique, où on voit une foule d'individus, enfin en tout cas un nombre indéterminé d'individus, se lancer comme ça, donc complètement déséquilibre, vers un trapèze, en fait deux trapèzes, donc il y a 15, 20, enfin bon, un certain nombre d'individus, et par contre il n'y a que deux trapèzes, et donc c'est vraiment très très parlant cette peinture. Et dans cette peinture il évoque à la fois la concurrence, mais également aussi la concurrence homme-femme, parce qu'on voit un homme et une femme aussi en concurrence dans ce tableau même. Donc en fait dans ce tableau là il parle à la fois de, je dirais, la concurrence au niveau macroéconomique, mais également les contradictions qui peuvent exister entre l'homme et la femme. Donc c'est également un tableau très riche, et il est très doué aussi pour ça, Christian Maillet, pour, dans un tableau qui a un sujet principal, nous montrer tout un tas d'autres aspects qui paraissent comme ça secondaires, mais qui en fait c'est vraiment parce que ces multiples aspects qui nous paraissent secondaires sont là que le tableau prend toute sa valeur, parce qu'il ne serait pas la même chose s'il n'y avait pas dans le coin du tableau ou complètement perdu entre plusieurs formes principales des petites choses qui finalement ensemble avec le reste disent l'essentiel. J'aimerais bien passer, oui, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc là on va peut-être passer le dernier extrait, voilà, et merci Sidi. Voilà.
Elle s'intitule Général civilisé donnant une leçon de démocratie aux peuplades sous-développées.
Donc on voit une pluie de bombes, d'étoiles. Les bombes tombent en arrière, elles massacrent les populations. Voilà. En revanche, les étoiles...
Les étoiles tombent sur le col des généraux, n'est-ce pas ?
Voilà.
À chacun son dû. Voilà. Alors Schwarzkopf, bon, on a essayé de le diviniser, c'est le génie militaire de notre époque, etc. Alors qu'il a essuyé des défaites en Indochine, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est un général battu en Indochine. Bon. Et les deux autres généraux autour de lui, ils sont tout petits, ils comptent pas. Là. C'est Schwarzkopf qui a tout fait, qui a tout décidé, etc.
Il y a une armée de micros aussi devant.
Ah, une armée de micros, on a tous vu ça à la télévision, quoi. C'est la guerre médiatisée à 100%, propre, sans rature, etc.
Voilà. Je crois que là, Christian Maillet, il y avait beaucoup de haine.
Et qu'est-ce qu'il y a sur son visage ?
Ah ben, sur son visage, il y a les pétroliers arabes, hein, tous ses amis, quoi, tous les gens qui le flattent, qui tirent de l'argent de l'impérialisme américain, etc., qui forment ce visage bouffi et imbécile. Voilà, enfin, c'est comme ça que je ressens, moi, cet individu.
Beaucoup de haine au moment de cette guerre du Golfe.
Ah, absolument, oui, beaucoup de haine. Oui, mais il faut, elle est sacrée cette haine-là, il faut l'entretenir. Non, sinon on n'est plus rien du tout. Quoi.
Comme vous le voyez, cette analyse, franchement, c'est en 92, et franchement, elle a toute sa pertinence maintenant, hein, justement également sur la guerre du Golfe et sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Il n'y aurait pas une virgule à changer. Donc, c'est la fin de cette émission. Moi, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, c'est vraiment informez-vous dans toutes les villes où vous pouvez entendre cette émission. Essayez de savoir de quelle façon vous pouvez avoir accès aux peintures de Christian Maillet. Nombre d'expositions ont eu lieu. On n'en a pas parlé d'ailleurs de toutes ces expositions, mais Dieu sait qu'il en a fait. Nous comptons en organiser d'autres. Voilà. Donc, je vais passer le mot de la. Enfin, le micro à Jacques pour le mot de la fin. Et encore une fois, vraiment, ne vous privez pas de connaître ce grand artiste.
Bien, merci. Je remercie Marie-Laure Mahé de me laisser le mot de la fin. Et je remercie aussi Sidi, qui nous a assuré la technique. C'est une vieille connaissance pour moi, depuis très longtemps. Et je pense que c'est un très bon technicien. Simplement, je veux être très court, puisque nous arrivons tout à fait à la fin. Je dis que Christian Maillet est toujours vivant par le souvenir qu'il a laissé parmi les siens, mais aussi parmi tous ceux qui allaient dans le même sens que lui, et par sa peinture.